Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Président fondateur du think tank The Shift Project et membre du Haut Conseil sur le climat. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la loi issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat?
Écoutez, je pourrais en attendre ce que tout citoyen est en mesure d'en attendre, c'est-à-dire une mise en cohérence de l'État entre ce qu'il dit vouloir faire sur la partie climat et ce qu'il fait dans les autres domaines. Ce que pour le moment il n'est pas capable de faire. Je suis pas sûr malheureusement que la loi issue des travaux de la Convention citoyenne va l'amener à résoudre ses propres contradictions.
Quelles contradictions par exemple?
Par exemple aujourd'hui, on ne s'est toujours pas inventé la croissance décarbonée. Quand on regarde ce qui fait croître l'économie, en fait l'économie est essentiellement une affaire de machines, hein, c'est les machines qui produisent dans le monde moderne. Faire croître l'économie, c'est faire croître le nombre de machines qui travaillent pour nous, et faire croître le nombre de machines qui travaillent pour nous en diminuant la pression de ces machines, notamment les émissions de CO2, personne ne sait faire aujourd'hui de façon, j'ai envie de dire, pérenne, durable et massive. Donc là, il y a une contradiction qu'on n'a pas réussi à résoudre. Quand on regarde en pratique ce qu'on fait dans un certain nombre de domaines, on cherche à faire exactement l'inverse de ce qu'on dit vouloir faire sur le papier. Par exemple, l'essor du trafic aérien, c'est un truc qu'on a du mal à rendre compatible avec une baisse forte des émissions de CO2. Or, on parle quand même d'injecter beaucoup d'argent pour essayer de continuer à faire voler beaucoup d'avions. Donc il y a aujourd'hui un nouveau texte de loi. Il n'est pas complètement sûr que ça va nous aider à beaucoup avancer là-dessus. Parce que le problème à la racine, il est qu'on a des souhaits contradictoires les uns avec les autres et que pour le moment, on ne sait pas arbitrer.
Est-ce que sur le domaine dont tout le monde s'accorde à penser qu'il est crucial, est-ce que sur le domaine de la rénovation énergétique des logements, est-ce que là, ce n'est pas compatible? C'est-à-dire qu'on réduit les dépenses de chauffage et on peut le réduire de façon significative tout en créant de la richesse, des emplois et en faisant progresser l'économie.
Alors quand vous regardez aujourd'hui ce que représente la dépense de chauffage par rapport au prix de l'immobilier, vous vous rendez compte que la seule manière de rendre une rénovation thermique lourde rentable économiquement, si c'est juste la partie économique qui doit être le moteur, c'est que ça valorise le patrimoine. Sur les simples économies de charges, en fait, c'est très très long d'arriver à s'y retrouver, juste sur la partie isolation.
Même sur le long terme.
L'optimum. Pardon ?
Même sur le long terme.
Ça dépend ce que vous appelez le long terme. Si vous raisonnez à 50 ans avec des taux d'intérêt nuls, non, c'est rentable. Si vous raisonnez à 15 ans avec des taux d'intérêt pas nuls, c'est beaucoup plus discutable. Quand on avait regardé le sujet au Shift Project, en fait, on avait constaté que l'optimum économique, c'est d'isoler sans excès, en gros de diviser la consommation d'énergie par deux, mais pas par beaucoup plus, et de décarboner le vecteur de chauffage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, décarboner le vecteur de chauffage? Ça veut dire que les logements qui sont chauffés au gaz et au fioul, qui représentent aujourd'hui l'essentiel de l'énergie qu'on utilise dans ce pays, hein, il y a quatre fois plus de gaz et de fioul utilisés dans le chauffage que d'électricité. Hein. Ça veut dire que ces logements-là doivent être passés à ce qu'on appelle soit la pompe à chaleur, soit du bois. Mais le bois, on ne peut pas chauffer tout le monde au bois, il n'en aurait pas assez. Et la pompe à chaleur, en gros, c'est un frigo inversé. Hein. C'est un frigo qui va chercher la chaleur à l'extérieur et qui la ramène dans le logement. Il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement isoler, il faut aussi changer l'outil de chauffage. Alors, pour faire ça de façon efficace, il faut obliger les propriétaires, donc en gros, vous, moi et tous ceux qui ont les moyens, on est obligés. Ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, l'État les aide, mais tous les autres, ils sont juste obligés de faire ça. Et si vous regardez les ordres de grandeur, c'est-à-dire le nombre de logements qu'il faut arriver à rénover chaque année, qui se balade entre 500 000 et 1 million, vous vous rendez compte qu'il faut faire rentrer 200 000 à 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Donc en fait, les plans aujourd'hui butent sur les conditions de mise en œuvre. Il faut aussi créer la confiance entre les propriétaires et les artisans, ce qui est un exercice compliqué. C'est pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait faire des travaux un peu significatifs. On sait que c'est un sujet, donc il ne faut pas se voiler la face, il faut le traiter. Il y a une question de garantie de performance à l'arrivée. Aujourd'hui, on est dans les obligations de moyens, on n'est pas dans les obligations de résultats. Donc, l'essentiel des problèmes à traiter, en fait, ils ne sont pas tant du ressort de la loi que du ressort de choses très pratiques sur lesquelles, pour le moment, la puissance publique est un peu en retrait.
Mais c'est un dossier important, prioritaire. Si je vous ai bien lu, Jean-Marc Jancovici, vous pensez-vous qu'il faut mettre un coup de frein sur les constructions de logements neufs pour, au contraire, rénover l'existant?
Alors, on a plusieurs sujets qui s'empilent avec le bâtiment. On a un sujet sur la performance de la boîte elle-même, c'est-à-dire le bâtiment lui-même, et on a un sujet d'urbanisme. Le sujet d'urbanisme, c'est où les bâtiments sont situés et qu'est-ce qu'on fait dedans. On comprend bien que si les bâtiments sont situés dans des endroits où ils sont difficilement accessibles par soit la marche, soit le vélo, soit des transports en commun, ça veut dire que les gens se rendent prisonniers de la voiture. Et donc, on a aussi un sujet qui est, faut-il dans un monde qui va devoir fortement baisser la quantité d'énergie qu'il utilise et qui va le faire de toute façon, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, pour des raisons de limites géologiques de l'offre en combustible fossile, ça finira par jouer un jour, faut-il continuer à construire du neuf, sachant que le neuf individuel, c'est essentiellement de l'étalement urbain, hein. Faut-il continuer à faire des zones commerciales en périphérie de ville, etc. Donc oui, il y a un vrai sujet sur le neuf aussi. Alors, le neuf est certes performant au niveau de la boîte, mais par contre, il y a un certain nombre de problèmes qu'il ne traite pas quand on construit, j'ai envie de dire, en étalant l'urbanisme.
Vous pensez aussi, et c'est un sujet important, parce que j'ai entendu hier encore une ministre en parler avec beaucoup d'éloquence, vous pensez, vous, qu'il ne faut pas s'enflammer pour l'hydrogène? Vous l'avez écrit récemment dans une chronique de l'Express. Pourquoi, selon vous, l'hydrogène n'est pas forcément l'énergie miracle ou l'énergie du futur?
Alors, l'hydrogène est une aussi bonne idée que la manière de le produire. L'hydrogène, hein, comme beaucoup de gens le savent, c'est l'un des deux atomes que l'on retrouve dans la molécule d'eau. Hein. La molécule d'eau, c'est deux fois hydrogène et une fois oxygène. Et la façon d'exploiter l'hydrogène, c'est de le faire brûler ou de le faire brûler de manière douce, ce qu'on a dans une pile à combustible. Et effectivement, à l'endroit où on s'en sert, on n'a que de l'eau. Sauf que l'hydrogène, il a fallu le produire. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Et pour produire l'hydrogène aujourd'hui, on sait très bien faire ça de manière importante dans le monde, mais on le fait en cassant des molécules de méthane en deux, et ça émet beaucoup de CO2, il faut émettre 10 tonnes de CO2 pour faire une tonne d'hydrogène. Donc si on regarde en analyse de cycle de vie, aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène ne résout pas le problème climatique. Une voiture à hydrogène, par exemple, avec de l'hydrogène qui serait fait de cette manière, et c'est l'essentiel de l'hydrogène sur Terre qui est fait comme ça, hein, elle émet plus de CO2 qu'une voiture à pétrole en analyse de cycle de vie totale. Pour que l'hydrogène devienne une bonne idée, il faut électrolyser de l'eau avec de l'électricité bas carbone. Donc les gens rêvent de l'éolien et du solaire, mais en pratique, ça serait plus facile à faire avec du nucléaire. Mais quand on regarde la quantité d'électricité qu'il faudrait obtenir pour avoir de l'hydrogène en quantité significative, ça devient un vrai sujet. En France, par exemple, alors évidemment, c'est caricatural ce que je vais dire, mais ça fixe les ordres de grandeur, pour remplacer la totalité du pétrole qu'on utilise dans les transports terrestres par de l'hydrogène, il faudrait doubler la production électrique française, doubler. Oui. Voilà, donc on voit bien, donc il faudrait augmenter le parc de réacteurs français de 150%. On voit bien qu'il faut un peu plus que de le dire pour y arriver.
À propos de nucléaire, justement, dans son entretien à Brut vendredi, Emmanuel Macron a lancé « Je ne suis pas anti-nucléaire ». Ça vous a fait plaisir ou vous avez trouvé que c'était bien le minimum ?
Alors, je n'ai pas regardé l'interview à Brut. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'il dise « j'ai fait une connerie en fermant Fessenheim ». Je ne sais pas s'il l'a dit.
Non, il ne l'a pas dit. Il a dit que c'était…
Bah, il aurait dû.
Il a rappelé que c'était la décision du quinquennat d'avant.
Hein. Oui, alors ça c'est, elle a bon dos. Le quinquennat d'avant, quand on est président dans un pays comme la France, où on maîtrise l'agenda du Parlement, on fait exactement ce qu'on veut, donc ça, j'achète pas.
Oui. Et il a rappelé aussi qu'il y avait cette loi qui prévoyait la réduction du nucléaire dans le mix énergétique. Et
qui l'obligeait. Oui, il est en train de faire voter des tas de lois en ce moment, sauf erreur de ma part, donc il pouvait très bien revenir dessus. Non, ça j'achète pas. Donc moi j'attends qu'il y ait un aggiornamento qui soit fait là-dessus, en disant merde, on a fait une connerie, il fallait pas faire ça, et les 50% de nucléaire dans le mix, en fait c'est pas une bonne idée, donc on va revenir dessus. Ouais. Donc, pour le moment, tant que j'ai pas entendu ça, le reste, je reste très perplexe.
Et en deux mots, en quoi ça a été une connerie? On en mesure précisément les effets sur l'origine de la consommation d'énergie en France?
Oui, parce que en fait, il faut resituer le cadre global dans lequel on doit agir.
Oh, il nous reste quelques
secondes. Le cadre global dans lequel on doit agir, c'est qu'on est dans une course contre la montre. On a quelques dizaines d'années pour ramener les émissions de CO2 à zéro sur la planète. Quelques dizaines d'années, c'est très court. Hein. C'est d'ici à ce que mes enfants aient mon âge. Hein. C'est très très court. Et il faut que ce rythme de baisse soit de l'ordre d'un Covid supplémentaire par an. Il faut baisser les émissions de 5% par an tous les ans sur Terre. Et 5% de baisse, c'est ce qu'on va avoir en 2020 à cause du Covid. Donc ça vous donne l'idée de l'ampleur de la transformation qu'il faut faire. Donc là-dedans, tout ce qui n'appartient pas à l'objectif principal nous fait perdre du temps et divertit des moyens, et donc augmente le risque qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif climatique, et donc augmente le risque qu'on voit les forêts mourir, les cultures devenir insuffisantes, les migrations augmenter, et in fine, les régimes politiques basculer dans la dictature, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Quand on est trop déstabilisé, la démocratie saute.
Merci.
Donc face à ce risque-là, tout argent qui n'est pas investi dans la baisse des émissions de CO2, pour moi, est une perte de temps. Et mettre de l'argent hors en France, l'essentiel de l'argent de la transition, il n'est pas mis dans la baisse du CO2, il est mis dans le fait de remplacer une énergie bas carbone, qui est le nucléaire, et qui est beaucoup moins risquée que l'idée que les gens s'en font, par une autre énergie bas carbone, qui est l'éolien et le solaire, qui en l'occurrence, en ce qui concerne le solaire, est déjà plus riche en carbone que le nucléaire, et qui est de moins bonne qualité parce qu'elle n'est pas pilotable, et qui oblige à augmenter les importations parce que les panneaux ne sont pas faits chez nous, enfin, ça n'a et qui atteinte plus à la biodiversité parce que ça consomme beaucoup plus d'espace. Donc on est en train de faire une substitution qui n'a aucun intérêt sur aucun plan. Ça ne baisse même pas le risque nucléaire. C'est un peu long d'expliquer pourquoi, mais ça ne baisse même pas le risque nucléaire.
Pardon Jean-Marc Jancovici, je suis obligé de vous couper parce que on est en train d'exploser les temps, mais on vous retrouvera une prochaine fois. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici, président fondateur du think tank Je Shift Project et membre du Haut Conseil sur le climat.